Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Bonjour Olivier Liron. Einstein, le sexe et moi est votre deuxième récit. Il raconte comment vous avez gagné à un jeu télévisé avec colère, joie et beaucoup d'autodérision. Votre premier récit, Danse d'atomes d'or, raconte l'amour fou, la perte et le chagrin immense. Tous les deux racontent aussi la différence, votre différence. Comment expliquez-vous que tant de lecteurs se soient reconnus, en particulier dans Einstein, le sexe et moi, surtout, comme pour moi, on n'est pas du tout capable d'apprendre par cœur le dictionnaire.
C'est très gentil. Alors d'une part, je ne suis pas du tout capable d'apprendre par cœur le dictionnaire, hein, mais c'est vrai que j'aime toujours apprendre des choses. C'est de la curiosité intellectuelle, davantage qu'un don.
Quand même.
C'est vrai que j'ai une bonne mémoire, mais je n'ai pas du tout une mémoire photographique ou une mémoire exceptionnelle. Hein. J'ai une mémoire assez normale, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que nourrir le stéréotype de personnes atypiques avec une très 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 grande mémoire hors du commun, alors que c'est pas le cas. J'ai des personnes autour de moi qui ont une meilleure mémoire. Par contre, c'est vrai que le fait d'apprendre des choses, ça, c'est quelque chose qui me caractérise, le fait d'apprendre.
Ouais.
D'avoir une curiosité intellectuelle à l'égard du le savoir et la poésie du savoir aussi, ce qui est un peu l'objet du livre finalement, où je raconte à la fois le parcours dans ce jeu télé que j'ai remporté plusieurs fois, Question pour un champion, et aussi, c'était je crois d'abord l'horizon premier du livre, essayer de raconter la fantaisie, je dirais, la fantaisie et la poésie de ces apprentissages, à la fois un peu loufoque et un peu absurde, parce qu'on doit apprendre, je me suis donné pour m'entraîner des petits défis comme d'apprendre les noms latins des plantes, par exemple, et en même temps la absurde et à la fois poétique, parce que c'est vrai que les noms des animaux, des oiseaux, des plantes, créer finalement tout un tas d'univers. Donc pour moi, c'était à la fois le jeu télé avec ce que ça représente de folie douce, et puis la poésie et la littérature, hein, qui sont quand même au cœur de ma vie.
Vous avez réussi à rendre poétique un jeu télévisé en plus.
Oui, c'est un petit peu le défi, parce que quand on pense à la télé, on est vraiment aux antipodes de la littérature, et justement, j'ai voulu un petit peu réconcilier les deux en me disant qu'est-ce que c'est de raconter avec les moyens de la littérature et des mots, raconter la télévision, et raconter en plus mon expérience, donc puisque c'est vraiment inspiré de mon histoire, et voilà, une histoire vraie, mais... C'était une histoire vraie, mais il faut quand même trouver les moyens de raconter ça avec poésie. Et donc c'était assez agréable. Je crois que j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter cette histoire. Et je ne sais pas, alors je crois que je ne pourrais pas expliquer, mais en tout cas j'ai été très ému par les milliers de messages, effectivement, messages que j'ai reçus, tout le bouche à oreille autour de ce livre, qui est devenu, comme on dit, un best-seller.
Oui, c'est vrai.
Mais voilà, ça a été très très agréable, à la fois et enrichissant et émouvant, de parler et d'échanger avec toutes les personnes qui soit avaient un lien avec Question pour un champion, soit avaient un lien avec les thématiques que j'aborde dans le livre, soit se reconnaissaient tout simplement dans cette histoire un peu folle. On se donne tous des défis, on a tous des passions, on a tous des... Donc finalement, je crois que tout le monde peut se reconnaître dans ce personnage. On est tous ce personnage, Olivier Luron. Et ça a été très très beau de vivre ce tourbillon autour du roman.
D'accord, merci beaucoup. Dans Einstein, vous racontez en particulier dans un chapitre le harcèlement scolaire que vous avez subi. J'y ai aussi lu une véritable dénonciation de l'abandon des enfants et d'une politique ridicule où les mots sont vides et creux, comme le slogan non au harcèlement. Je me trompe?
Oui, ça c'était un moment très très important dans le livre puisque je raconte comment enfant. Alors évidemment, c'est à travers le livre, hein, donc c'est le personnage qui raconte, mais là encore, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu et je raconte comment ce gamin qui est très très doué à l'école, hein, qui n'a pas de difficultés d'apprentissage, il est très brillant, mais qui a des difficultés énormes au niveau de l'intégration, du coup, vit un véritable calvaire et je raconte des violences à la fois physique, psychologique, verbal, donc des formes de souffrance en fait réelle. Et je m'amuse un petit peu parce que je crois que l'humour permet, vraiment, c'est le pari que j'avais fait avec ce livre, l'humour permet de raconter des choses terribles, mais le fait de les raconter en riant est souvent le meilleur moyen de faire bouger les lignes et de prendre de la distance aussi à titre personnel. Et dont je raconte avec humour comment cet enfant dans la souffrance dans laquelle il est, effectivement de son point de vue d'enfant, les discours officiels sur la lutter contre le harcèlement, etc., ne sont pas ne s'incarne pas.
Oui, c'est juste des
mots. Ne s'incarne pas dans la réalité. Donc, l'enfant, avec sa lucidité qu'ont les enfants, constate. C'est pas un terme que l'enfant que j'étais disait, mais ce que je pourrais dire aujourd'hui avec le recul, cette forme d'hypocrisie ou du moins de décalage entre une réelle évolution des discours et je trouve des pratiques dans la réalité qui tardent à évoluer pour être attentif aux souffrances que traversent beaucoup d'enfants. Et du coup, l'épisode auquel vous faites allusion de ce livret, c'est effectivement cet enfant qui subit le harcèlement et qui reçoit un petit livret comme ses camarades, on lui explique comment comment dire non, comment voilà, donc il y a plein de bonnes idées, mais c'est pas toujours suivi et je trouve que cette anecdote résume bien finalement les difficultés que traverse l'enseignement aujourd'hui, l'éducation, l'école. Et encore une fois, c'est pas un livre contre l'école, pas du
non,
tout. Moi,
pas du tout.
J'ai vraiment aimé l'expérience de la scolarité en général, que ce soit vraiment dans l'enfance, petite enfance, ou plus tard, j'ai fait des études supérieures et c'est ce qui m'a vraiment apporté énormément dans ma vie. Mais c'est plutôt une façon de dénoncer cet aspect on pourrait dire de cette je cherche mes mots, mais cette situation qui pour moi devrait faire effectivement l'objet d'une qui à titre personnel, parce que en tant qu'écrivain on s'exprime toujours à titre personnel, et je crois que à titre vraiment, cette expérience-là de révolte face à l'immobilité,
c'est ça,
du système. C'est pas une charge contre les élèves qui commettent ce genre de propos, les enfants qui commettent ce genre d'actes, ou contre les enseignants. Mais c'est plutôt une façon de dire et de témoigner, là encore à travers à travers un récit, à travers une histoire, hein, c'est vraiment important, hein, c'est dans une histoire, mais d'avoir le partager en fait.
Oui, c'est ça.
Plutôt que témoigner, qui est un mot un petit peu trop lié, je trouve, à la justice et à la. Mais de partager, en fait, cette expérience-là. À savoir que pour des enfants surdoués, atypiques, etc., la violence que l'on ressent à l'école peut être extrêmement grande. Et la souffrance peut être très grande. Et alors, c'est vrai que face à ça, les mots de harcèlement, les mots de lutter contre le harcèlement, bah effectivement me semble un peu faible. Moi je me suis jamais dit enfant tiens je suis victime de harcèlement. Mmh. Ce qui était immédiat c'était la souffrance, le sentiment de difficulté, d'intégration, le sentiment de désarroi, de tristesse. C'est vrai que je trouve la novlangue qui est aujourd'hui très utilisée, le harcèlement, etc. Elle est pas complètement, je trouve, en phase avec la réalité, de la souffrance vécue par certains enfants. Mais c'est vrai que j'ai voulu raconter ça, et à la fois cette expérience et l'inadéquation de la réponse en fait apportée par le système. C'est-à-dire, alors je me suis un petit peu éloigné. De la réflexion uniquement sur l'école, mais oui. J'avais remarqué qu'en réfléchissant sur l'école, on entendait souvent un discours extrêmement moralisateur, concentré sur l'idée de protéger les enfants j'ai eu le sentiment, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu de décalage entre les discours sur l'école et la réalité de l'école, et finalement, même pour prendre d'autres aspects de l'éducation, je trouve que c'est quelque chose que je retrouve souvent, là encore sans être expert, hein, c'est-à-dire le sentiment d'entendre énormément de discours sur ce que devrait être l'école, ce que devrait être l'école, etc. Et une réalité de souffrance, en fait, générale, alors à la fois, du coup, évidemment, pour la thématique du harcèlement, mais qui n'est pas, et de loin, la seule non plus.
Donc, c'est ça.
J'ai parfois l'impression que ça concerne plus la réception du roman que le roman lui-même, parce que dans le roman, je parle, et c'est très important pour moi de parler de ça, mais
oui.
De manière globale, je fais le portrait d'un enfant... à la fois autiste Asperger et surdoué, c'est-à-dire qu'il y a des énormes capacités scolaires, qui souffrent. Et ça, c'est vrai que c'est choquant parce que je trouve que ça met finalement en retour, ça questionne les normes et les valeurs d'une société. Mmh. Et donc, c'est pas tellement pour moi le fait de parler de moi. On parle jamais de soi par narcissisme. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt parce qu'en parlant de mon expérience, j'ai eu le sentiment de questionner une expérience universelle.
C'est ça.
Une expérience de souffrance, d'exclusion, qui touche aussi bien d'ailleurs des enfants surdoués que d'autres types de d'autres parties de la population. Voilà. Donc, et face à ça, c'est vrai que c'est peut-être là que la littérature et les histoires en général, je dis la littérature, les histoires en général ont quelque chose à faire, c'est qu'elles permettent de à la fois de parler du réel et puis de raconter de raconter la réalité telle qu'elle est vécue autrement que dans les grands discours qu'on entend un petit peu partout et qui sont des discours qui sont souvent un petit peu en décalage, pour pas dire complètement en décalage avec l'expérience des enfants et enfin, l'expérience de l'école de manière générale. Et c'est vrai que j'ai eu sans doute ce besoin-là de dire bon, la réalité de l'école, c'est aussi ça. Et je crois que du coup, ça a expliqué aussi que beaucoup d'enfants, adolescents, parents se sont reconnus dans le livre.
Je crois, oui.
Ils se sont dit bah oui, d'accord, effectivement, moi, je n'ai jamais osé le dire, mais j'ai vécu la même chose.
C'est ça, oui.
souffrance, le rejet, la honte, parce que tout ce qui est intéressant, c'est les sentiments, hein, c'est les émotions, évidemment, quand on écrit. Donc, comment cet enfant vit la honte, vit la révolte, vit la colère, vit la résilience aussi, vit l'espoir, l'envie de s'en sortir. Donc, en plongeant dans mon expérience, j'ai eu le sentiment de plonger dans une réflexion assez universelle, un thème assez universel sur, sur la violence et la façon de s'en sortir, d'en réchapper et de se reconstruire. Donc, ça a été aussi un texte très émouvant à écrire et à partager ensuite. Ouais. Parce que finalement, les gens qui venaient me voir se sont reconnus dans cette confession, on pourrait dire, ou dans cette parole, tout simplement.
Ouais. Enfin, en tout cas, pour mes élèves, ça les a soulagés.
Ah, c'est intéressant.
Voilà, ça les a soulagés parce que ça sortait de... Enfin, il y a quand même d'autres témoignages. Hein, et justement, on était dans la littérature. Clairement, pour eux, ils reconnaissaient bien de la littérature. Mais ça allait aussi au-delà de « je raconte ». Justement, c'était aussi sur... le fait, la manière dont il y a deux discours, quoi. Il y a le discours non-harcèlement, donc on l'efface, finalement. Et puis, il y a le réel qu'ils vivent et qu'ils finissent par nier eux-mêmes. Hein, parce qu'ils se disent, bah, si on me dit que ça n'existe pas, ce que je vis n'existe pas non plus, quoi. Et donc là, il y avait des mots qui étaient posés dessus. Et vraiment, on a eu des discussions très intéressantes là-dessus. Sur ce sentiment d'abandon, hein, voilà, dont vous parlez très, très bien.
Intéressant.
Voilà. Donc merci pour eux et puis aussi pour nous, hein, les professeurs, parce que ça nous a beaucoup apporté.
Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les campagnes contre le harcèlement ne sont pas efficaces.
Oui,
là,
oui.
Là, je veux quand même préciser que...
Elles sont nécessaires quand même, malgré tout.
C'est clair que c'est absolument nécessaire et urgent. Simplement, ce que vous venez de dire me fait penser que c'est peut-être ce qui manque aussi, c'est-à-dire finalement, ce que permettent les histoires, ce que permettent... les mots, effectivement, de raconter de l'intérieur, quoi.
C'est ça.
Et donc de partager ça. Et ça n'enlève en rien à... Et qu'effectivement, un enfant placé dans une situation comme ça, le fait de pouvoir mettre des mots, l'aide, alors que une simple campagne de sensibilisation souvent ne suffit pas, mais ça ne veut pas dire que c'est je crois quand même pour avoir voyagé dans des classes et puis là l'entretien qu'on a, on est la preuve qu'il y a une plus grande sensibilité à ces thèmes-là depuis une dizaine d'années, et notamment depuis 4 ou 5 ans, et que c'est très bien, c'est très très bien, et j'en suis vraiment heureux. Je pense que les choses changent quand même dans le bon sens, mais il y a encore énormément de travail, et que voilà, finalement mettre des mots, ça peut aussi, je crois, raconter des histoires, tout simplement, parce que c'est une belle histoire, hein, c'est pas une histoire...
Oui.
C'est quand même une belle histoire de quelqu'un qui
s'en sort.
Voilà, qui s'en sort et qui se construit comme ça dans la résistance et dans le combat. Et voilà. Mais c'est important de mettre des mots. Et puis, si ça peut aider des jeunes, comme je le rencontre parfois dans les classes, justement, aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Ça les aide à ne pas avoir honte de ce qu'ils sont. Et,
c'est ça.
Et a fortiori, des jeunes... une différence, et ben c'est super. Donc je me réjouis d'avoir et contribué, en tout cas essayer de contribuer à faire changer un petit peu les mentalités et à faire bouger le ligne vers un monde un peu meilleur.
Merci Olivier Liron et à la semaine prochaine pour la suite de notre entretien.